Blessure de frontière. La lumière tombe doucement sur les collines de rocailles. L'air s'embrase d'une couleur d'amande. Tout semble serein et éternel. Nous laissons derrière nous la voiture. Nous nous sommes garés 200 mètres plus loin. Je ne connais pas l'homme qui nous a conduits. Mon frère lui a parlé avec familiarité. Ce n'était manifestement pas la première fois qu'ils se voyaient. Combien d'entretiens a-t-il fallu avant qu'ils ne se mettent d'accord sur une somme, sur une date? Combien ce voyage nous coûte-t-il? Jamal n'explique rien et je ne pose aucune question. Nous marchons silencieusement dans la paix des collines. La frontière ne devrait plus être loin. L'inconnu ouvre la marche, nous portons nos sacs et veillons à ne pas faire trop de bruit sur les cailloux du sentier. Il faut être vigilant. Les gardes frontières patrouillent dans la zone. Je suis heureux, aux côtés de mon frère. Je quitte mon pays. Nous marchons sur les pierres chaudes comme des chèvres sauvages, agiles et discrets. J'aurais trouvé frustrant de passer la frontière en voiture. C'est mieux ainsi. Je préfère l'abandonner pas à pas. Je veux sentir l'effort dans mes muscles. Je veux éprouver ce départ dans la fatigue. C'est lorsque nous sommes arrivés au pied d'une colline que l'homme s'est retourné vers nous. Nous avions marché plus d'une heure et il a dit « Nous sommes en Libye ». J'ai d'abord cru qu'il se moquait de nous, puis j'ai vu à son visage que l'idée de cette plaisanterie n'aurait jamais pu lui venir. Alors j'ai regardé tout autour de moi. Mon frère avait la même incrédulité sur le visage. Nous avons contemplé les terres dans notre dos à la recherche d'une marque qui nous aurait échappé. Le guide a pointé son doigt en direction de la crête que nous venions de descendre, sans rien dire, comme s'il avait deviné ce que nous cherchions. La frontière était là, sans aucun signe distinctif. Là, au milieu des pierres et des arbres chétifs. Pas même une marque au sol ou une pancarte. Je n'aurais jamais pensé que l'on puisse passer d'un pays à l'autre ainsi, sans barbelés à franchir, sans cris policiers et course-poursuite. Je prends mon frère dans les bras et je l'étreins. Nous restons ainsi longtemps. Je sens qu'il pleure. Je l'entends murmurer « C'est si facile !» Et il y a dans sa voix comme une pointe étrange de rage. Je comprends. La facilité est vertigineuse. Nous aurions dû faire cela avant. Si la frontière laisse passer les hommes aussi facilement que le vent, pourquoi avons-nous tant attendu? Je regarde autour de moi. Je me sens fort et inépuisable. À l'instant où j'allais me baisser pour baiser la rocaille à mes pieds, Jamal m'a serré le bras avec force. Je l'ai regardé. J'ai vu tout de suite que quelque chose n'allait pas. Il avait les traits tirés et les yeux durs malgré les larmes qui avaient coulé. « Il faut que je te parle », a-t-il dit. Et j'ai eu peur d'emblée. Écoute, mon frère, et ne dis rien. Nous nous sommes mis à l'écart. Le guide est descendu un peu plus bas, puis il s'est assis sur une pierre en attendant que nous ayons fini. Je pense à des problèmes d'argent, immédiatement. Peut-être Jamal n'avait-il pas assez pour payer les billets de deux passages. Je voudrais lui dire qu'il ne doit pas s'en faire. Je me débrouillerai et le rejoindrai. Nous sommes en Libye, plus rien ne m'arrêtera. Mais il parle et cette phrase n'est pas celle que j'attendais. Je ne peux pas venir avec toi. Jamal, s'il n'y a de l'argent que pour une personne, c'est à toi de passer. Ne t'inquiète pas, il ne me laisse pas finir. Je suis venu simplement pour t'accompagner. Je ne peux pas poursuivre. Qu'est-ce que tu racontes? Soleiman. Viens, dépêche-toi. Soleiman, je suis malade. Les lézards se sont immobilisés sous les roches. Les oiseaux ont interrompu leur chant. Je suis resté bouche bée dans le silence du monde. Que dis-tu? Malade, oui. Je voulais t'accompagner et t'emmener jusqu'à la frontière, mais je ne pourrais pas aller plus loin, je ne pourrais pas faire le voyage. Malade de quoi? Il a pris son temps pour répondre. Il voulait me laisser le temps de tout enregistrer. Il a parlé d'une voix calme et posée. Je l'ai découvert il y a quelques mois. Des signes commençaient à m'inquiéter. Je suis allé voir un médecin qui m'a dit, après analyse, que j'étais malade de cette mort lente qui engloutit les hommes par génération entière. Comment est-ce possible? La contagion, Soleiman. Mais je ne sais pas. et au fond, cela n'a aucune importance. Maman disait bien que j'avais une vie dissolue. Elle avait raison. Les prostituées de Port-Soudan, lors de mes virées sur le port, m'ont coûté plus cher que je ne pensais. C'est ainsi, Suleiman. Pourquoi sommes-nous partis alors ? Parce que tu dois quitter le pays. Sans toi ? Oui. Tu es fou ! Nous rentrons à la maison. J'ai fait mine de partir, mais Jamal me retient par le bras avec vigueur. Suleiman, écoute, je sais ce qu'il adviendra. Mon corps va maigrir, mes joues se creuser, mes forces m'abandonneront, je serai bientôt maigre comme un vieux cheval. Je ne tiendrai plus sur mes jambes. Les gens s'écarteront de moi, je ferai peur. Il n'y a rien à faire. Je n'ai plus que l'agonie devant moi. Sauf si tu te soignes. Il n'y a pas de médicaments, ou ils sont trop chers et je ne veux pas ruiner la famille pour cela. Je travaillerai, et après. Je te paierai ce dont tu auras besoin. L'argent, je préfère l'utiliser comme cela, pour que tu partes plutôt que pour essayer d'endiguer une mort qui de toute façon m'avalera. Qu'allons-nous gagner ? Quelques mois à peine ? Et à quel prix ? Nous allons rentrer tous les deux et je vais m'occuper de toi. Non, dit frère, ce n'est pas ce que je veux. Je me suis mis à crier, excédé par ces paroles dont je ne voulais pas. Tu ne crois tout de même pas que je vais te laisser retourner chez nous seul ? La douleur me faisait monter le cœur dans la poitrine. Je pensais qu'une minute plus tôt j'étais heureux et la terre me semblait vaste. Maintenant l'air me manquait, je voulais déchirer les pierres de rage. Mon frère s'est remis à parler doucement, comme s'il savait que sa voix seule pouvait apaiser mes hoquets. Je vais t'accompagner jusqu'à la voiture qui t'emmènera sur la côte libyenne à Al-Zouara. Je veux être sûr que tu partes. Je veux voir un d'entre nous s'éloigner de ce pays où nous n'aurions jamais dû naître. Puis je retournerai là-bas. Ce qui se passera alors sera laid. Je ne veux pas que tu vois cela. Je sanglote maintenant. Je grimace comme un enfant. Je ne veux pas partir sans toi. Même si tu renonces, Suleiman, nous ne vivrons plus ensemble parce que la mort me mange lentement et que l'on aura bientôt fini avec moi. Il faut que tu partes. C'est la seule chose qui me fera sourire dans l'agonie qui m'attend. Je veux savoir qu'un d'entre nous a échappé à la laideur de ces vies gâchées.
Que me demandes-tu ?
Jamal ne m'a pas répondu. Il a regardé autour de lui. Le spectacle des collines silencieuses alentour semblait l'emplir de paix à nouveau. Il était serein. Je ne t'ai pas tout à fait dit la vérité, Suleiman. Je suis venu avec toi pour t'accompagner, mais il y a une autre raison. Je voulais passer la frontière. Je sais maintenant que s'il m'avait été donné d'avoir une vie plus longue, j'aurais réussi. Je sais que j'avais raison de vouloir partir. Je voulais voir si j'étais capable de passer une frontière, juste une. Je n'aurais peut-être pas dû. Tu aurais eu plus d'argent si je ne t'avais pas accompagné, mais je voulais voir cela une fois avant de mourir. Passer la frontière et savoir que rien ne m'aurait empêché d'être libre si j'avais pu vivre davantage. J'avais à peine la force de parler. Je ne veux pas te laisser. Je veux te tenir la main, Jamal, jusqu'au bout. Et après, je te promets que je partirai. Non, je ne veux pas que la maladie te vole ton frère. C'est toi qui me voles mon frère en m'empêchant d'être à tes côtés. Elle va me manger, elle va m'enlaidir. La peur me tirera les traits, la tristesse de la vie qui m'est volée me rendra violent. Ce n'est pas ton frère. Je ne veux pas que cet homme à l'agonie salisse ton frère. Je veux que tu te souviennes de moi comme ça, comme nous sommes aujourd'hui. Je suis devant toi, je suis fort encore pour un temps. Nous avons marché côte à côte, Jamal, et je suis libre, tu m'entends, Suleiman ? C'est pour cela. La dernière image que tu auras de moi, je veux que ce soit celle-là, celle d'un homme en terre libre qui a fait ce qu'il a voulu. Nous aurions pu, Suleiman. Ne l'oublie jamais. Nous aurions pu, si la vie ne m'avait pas fait ce croche-pied. Je ne pensais plus à rien. J'étais comme une maison après l'incendie, vide et exténuée. La voix de mon frère résonnait en moi. Je n'avais plus ni joie ni envie. Il m'a pris à nouveau dans ses bras, longuement. Puis il a sifflé et le guide s'est levé. « Il faut reprendre la marche », a-t-il murmuré en m'entraînant à ses côtés, sans me lâcher l'épaule. Je ne sais pas pourquoi je marche. Je ne sais pas pourquoi je ne me mets pas à hurler ou pourquoi je n'essaie pas de le convaincre de revenir sur nos pas. Je m'efface derrière sa volonté. Il est là, tout autour de moi. Je fais ce qu'il veut. Est-ce parce que je sais qu'il a raison ? Ou parce que je veux lui faire plaisir ? Je ne sais pas. Je sens tout autour de moi une force calme qui me presse de marcher. C'est celle de mon frère qui m'enveloppe. Je le suis. Il en a toujours été ainsi. Je le suis. Aujourd'hui plus que jamais. Dans ce paysage que nous ne connaissions pas, le guide nous mène jusqu'à une route. Une voiture nous y attend. J'aurais voulu qu'elle ne soit pas là. J'aurais voulu qu'il faille marcher pendant des heures, des jours même, pour parvenir à l'atteindre. Mais elle est là. Notre guide a salué le conducteur. Mon frère s'approche. Il parle à l'homme. Je n'entends pas ce qu'ils disent, mais je vois mon frère sortir de l'argent et le lui tendre. C'est mon passage qu'il paie. Cet argent qu'il donne est celui qui lui manquera pour s'acheter des médicaments. Je voudrais lui crier de reprendre les billets, mais je ne le fais pas. Je suis épuisé. C'est comme un peu de sa vie qu'il donne à cet homme. Il se condamne à la douleur pour moi. Je sais que maintenant les choses vont aller très vite. C'est ce que veut Jamal, que je sois happé par le rythme du voyage. Le conducteur va vouloir que je monte et il démarrera sans attendre. Je veux un peu de temps. Je repense au thé que nous avons bu chez Faisal. Je croyais que nous faisions nos adieux à la ville, mais Jamal savait, lui, qu'il reviendrait. C'est à moi qu'il disait adieu. Cette tristesse dans ses yeux, c'était celle d'avoir acquitté son frère. Notre guide vient me saluer, il me recommande adieu et ajoute, avant de faire trois pas en arrière, « Si tout va bien, tu seras à Al-Zouara dans 2 jours. » Je regarde mon frère. Je suis perdu. Où est-ce que je vais, Jamal? Je ne sais même pas où je pars. Il voit mon trouble alors. Encore une fois, il s'approche de moi et m'entoure de son calme. Il m'explique qu'il a payé pour tout, que je n'ai plus à me soucier de rien, simplement me concentrer sur mes forces et aller jusqu'au bout. La voiture m'emmène à Al-Zouara, sur la côte libyenne. Elle me déposera dans un appartement où les passeurs viendront me chercher. Je paierai la deuxième moitié à ce moment-là pour la traverser. Jamal parle lentement. Il a tout calculé, tout prévu. Il me demande si j'ai bien compris. Je ne parviens pas à penser que je vois mon frère pour la dernière fois. La tête me tourne. J'ai besoin d'appui. C'est alors que Jamal enlève de son cou un collier et me le tend. Je ne bouge pas. Je suis sans force. Il me le met doucement autour du cou. C'est un collier de perles vertes. J'ai toujours vu mon frère avec. Je sens le contact froid des perles sur ma peau. Il n'a pas dit un mot. Il doit être comme moi, incapable de prononcer une parole. Il me serre à nouveau dans ses bras avec force. Je me remplis de sa vigueur. Jamal, qui m'accompagne jusqu'aux portes du voyage, je voudrais lui rendre son collier et prendre sa maladie. Je voudrais l'agonie à sa place. Mais je sais qu'il n'en sera pas ainsi. Je me remplis de lui pour ne jamais oublier le visage qu'il a à cet instant. Je monte à l'arrière de la voiture qui démarre d'un coup. Jamal et le guide me font signe, un temps, de la main, puis me tournent le dos et reprennent leur marche en sens inverse. Je suis loin de chez moi. Cette voiture poussiéreuse m'arrache à ma vie. Ce sera ainsi désormais. Je vais devoir faire confiance à des gens que je ne connais pas. Je ne suis plus qu'une ombre, juste une ombre qui laisse derrière elle un petit filet de poussière. Nous roulons sans cesse, de jour comme de nuit, toujours vers la mer. Je me perds dans des terres que je ne connais pas, j'imagine Jamal en train de faire la route dans l'autre sens. Il repasse la frontière, sans joie cette fois, sans embrassade, retrouvant sa vie laide d'autrefois. Comme une bête qui, après s'être échappée, retourne de son propre chef à l'étable. Je me suis trompé. Aucune frontière n'est facile à franchir. Il faut forcément abandonner quelque chose derrière soi. Nous avons cru pouvoir passer sans sentir la moindre difficulté, mais il faut s'arracher la peau pour quitter son pays, et qu'il n'y ait ni fil barbelé, ni poste frontière, n'y change rien. J'ai laissé mon frère derrière moi, comme une chaussure que l'on perd dans la course. Aucune frontière ne vous laisse passer sereinement. Elle blesse, toutes. Dans la voiture qui roule, toute fenêtre ouverte, j'essaie d'imaginer la vie qui m'attend, mais je n'y parviens pas. Je ne peux penser qu'à ce que je laisse. Comme j'ai vieilli tout à coup. Il n'y a plus de joie et le monde me semble laid. La solitude prend possession de moi. Je vais devoir apprendre à la laisser m'envahir. Je serre du bout des doigts le collier de perles vertes de mon frère. La voiture roule. Je pense à toi. Je ne t'oublie pas, Jamal. Je vis pour toi. Pour toi seul qui aurais pu boire l'océan et doit rentrer, piteusement, dans ta niche pour y mourir. Je pense à toi que j'ai vu, une fois au moins, face à moi, fort et heureux de liberté.